7h18, bonjour Pierre.
Bonjour Paul.
Doug Ford n'a pas perdu de temps et a décidé que c'est pas vrai qu'on va subventionner les acheteurs de Tesla.
Oui, et évidemment, c'est tous les véhicules électriques qui possédaient, qui profitaient d'une subvention en Ontario. Il faut savoir que la subvention en Ontario peut aller de 7 000 à 14 000 $ Donc, c'est très important. Et Tesla, avec son Model 3, disait aux États-Unis, nous allons vendre un modèle à 35 000 $ américains. Évidemment, nous, ici, on le convertissait en dollars américains, en canadiens, plus TPS TVQ, plus les options, faisant en sorte que la subvention d'Ontario rendait le véhicule Model 3 accessible à des gens. Et là, Tesla dit, attends une minute, là. Vous votez de quoi le 3, le 11, ça devient public, puis à partir du 11, sauf ceux qui sont en commande et certaines restrictions, vous éliminez complètement la subvention. Donc, nous, nos clients qui avaient une option d'achat d'action, là, une option d'achat sur une voiture, excusez-moi, et là, ils vont changer de décision, ils changent de deal, 14 000, c'est important pour eux. Donc, Tesla profitait de la subvention maximale. Et là, évidemment, ça vient changer le modèle d'affaires. Et ça, c'est comme dans n'importe quelle entreprise, on est exposé à l'environnement peste, qu'on appelle politique, économique, socio-démographique, technologique et environnemental. Et là, le politique peut détruire ton modèle d'affaires ou modifier ton modèle d'affaires, comme Uber ou comme les taxis. Dans ce cas-ci, on élimine la subvention. Et c'est à se poser, finalement, comme question, est-ce qu'on peut poursuivre le gouvernement? Parce que dans le fond, le gouvernement met une subvention en vigueur, mais est-ce que la province promet de garder la subvention ad vitam aeternam?
Non.
Non. Est-ce qu'il y aurait dû avoir un délai plus long? Peut-être. Et la question, c'est de se demander aussi, Tesla va devoir prouver, si elle poursuit, qu'il y a eu dommage, qu'il y a un lien de causalité entre le dommage et la réalité, et surtout que c'est la responsabilité du gouvernement ontarien. Comment on peut faire ça? On peut dire, regardez, nos commandes étaient de temps, mais ils ont été matérialisés en temps de volume. Mais évidemment, c'est pas évident à prouver parce que je peux bien payer 1000 $ pour avoir une option d'achat sur une Tesla et finalement laisser aller parce que finalement, c'était trop cher pour moi de toute façon. Donc, ça va être extrêmement difficile à prouver. Et pendant ce temps-là, ben, Tesla, ben, au niveau de l'actionnariat, ça se fait un peu brassé parce qu'évidemment, Elon Musk fait des tweets. Hein, c'est un peu le Donald Trump de la voiture. Et là, il dit, ah, je vais peut-être privatiser Tesla, évidemment. La Security and Exchange Commission panique. Tu peux pas dire ça de même en l'air. Faut que tu nous donnes l'information. Donc, Tesla, dans le moment, au niveau de la bourse, a fait 20 % en 3 mois, mais en un an, a perdu 3,5 %. C'est une action qui a permis à des gens de faire beaucoup d'argent. Il y a une valorisation boursière de 58 milliards, mais pour l'instant, on est en deux. Là.
Mais tu vois, je lisais ce matin dans le New York Times, justement, où il donne une entrevue, là, et il explique que c'est extrêmement difficile pour lui ce matin, qu'il peut passer 4 jours à l'usine sans sortir, puis que... Il a l'air perturbé, le gars.
Bien, c'est parce qu'il perd 700 millions de dollars hein, pour un trimestre. Là. C'est beaucoup d'argent. Donc, on brûle beaucoup d'argent chez Tesla. On a un produit de qualité. On a un produit exceptionnel. Mais le client n'a pas la capacité nécessairement de payer et on n'a pas la capacité de livraison pour amener l'entreprise à bénéfice pour l'instant. Donc, la question, c'est, on a un beau modèle d'affaires, mais Tesla vise que toute entreprise en croissance vit. C'est-à-dire une crise de liquidité. Faut que t'aides du cash. Il y en a pour l'instant, mais au niveau à long terme, faut qu'une monnaie tu démontres à l'investisseur qu'il va en avoir pour son argent.
Parlons de gestion de placement. Est-ce que le conseiller est toujours nécessaire?
Oui, on parle de Wealth Simple dans le Financial Post et dans la presse ce matin sous Stéphanie Grandmont. Et on parle qu'il va y avoir des transactions gratuites sur certains titres avec l'application et qu'il y a des robots conseillers à faible coût. Et ça pousse la réflexion plus loin parce que tout notre modèle d'affaires, au niveau de la finance personnelle, c'est basé sur le fait que les gens trouvent ça mystérieux, compliqué. J'ai besoin d'un conseiller. Mais quand on a 50 000 $ de placement et moins en banque ou dans une institution financière, on n'est pas un client pour l'instant prime. Donc, ce qui arrive, c'est que le conseiller qui va vous conseiller, c'est un conseiller en épargne collective qui doit aussi vendre des cartes de crédit, des marges de crédit, renouveler votre paiement hypothécaire. Donc, il ne regarde pas la bourse tous les jours. Ce qui se passe, c'est que le représentant de première instance, on va lui dire, fais le profil d'investisseur du client, pose-lui une couple de questions, détermine son profil d'investisseur et on va dire quoi y acheter. Donc, en somme, il est comme une espèce de robot conseiller humain. Il fait un lien entre des questions, des réponses et un placement. Ce n'est pas une analyse quotidienne des placements. On ne paie pas pour ça. Alors, Wealthsimple et d'autres compagnies vont dans ce créneau-là. Celui de la personne qui vend une application, placer son argent en fonction de son profil de risque, mais pas nécessairement payer les frais qui sont liés à une gestion qui est beaucoup plus évoluée. Mais plus on avance, plus on a besoin d'un conseiller global, c'est-à-dire on tombe dans les actions, on tombe dans un conseiller qui peut nous conseiller en assurance, en d'autres services financiers, dans notre planification globale de succession. Donc là, c'est ça le futur. C'est là que la Banque Laurentienne s'en va. C'est pour ça qu'on veut se réorienter loin des transactions. On veut devenir une espèce de one-shop model. Et ça, l'application qui va nous offrir ça un jour avec toute une belle visualisation, qui n'aura pas trop de réglementation qui va nous empêcher de le vivre, va nous permettre d'avoir une espèce d'application de notre richesse. J'ai hâte de voir ça sur mon téléphone. C'est voici combien tu vaux à la seconde.
Il ne faut pas que tu sois trop stressé parce que ça peut monter, ça peut descendre.
Exactement. Hein? L'avantage d'avoir des rapports mensuels, c'est de les regarder juste une fois par mois.
Mais tu penses qu'un jour, avec l'intelligence artificielle et les algorithmes et tout ça, qu'on va être capable, même si c'est quand même complexe puis il faut avoir du temps pour l'information, de gérer nos propres affaires?
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, dans le moment... Mais ce que je veux dire, c'est que dans le fond, il y a beaucoup de fonds présentement qui sont disponibles. Que simplement, tu pourrais investir toi-même dans le fond puis dire, bon, moi, j'ai un profil de risque modéré. En voici un qui est identifié modéré. J'ai-tu besoin d'un conseiller pour me dire, hey, en passant, t'as peur moyennement, puis voici un fonds de peur moyennement, puis je vais te les mettre ensemble, voici 1% de commission. Non, il y a ça à un moment donné qu'il faut se dire. Là.
Ouais,
on veut payer pour la gestion du portefeuille, mais pour nous faire dire quel portefeuille prendre, un jour, on n'aura peut-être pas besoin. Comme un ébéniste amateur qui apprend à jouer avec le bois.
Merci, monsieur.
Salut.
Bonne fin de semaine. Il est 7h24.